Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, ce week-end, eh bien, nous reviendrons largement sur les nouvelles promotions 2022 du Next 40 et de French Tech 120, ces indices qui regroupent les entreprises les plus prometteuses de la tech française. Parmi les nouveaux entrants, Swile, Malt ou encore Lifeun, dont nous réécouterons les dirigeants. Tous étaient présents cette semaine sur BFM Business. Nous reviendrons également sur la belle série qui continue pour l'armateur marseillais CMA-CGM après une année 2021 qui s'annonce record côté bénéfices et après le rachat d'un groupe américain de l'e-commerce. Eh bien, CMA-CGM vient d'annoncer le rachat de Colis Privé, l'un des spécialistes européens de la livraison des colis. Enfin, dans ce tour d'horizon de l'économie positive, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arthur Lepage, le président de Reborn. Grâce à une levée de fonds de 16 millions d'euros, son groupe accélère dans le recyclage des films plastiques, avec à la clé en plus une centaine de nouveaux emplois dans ses 5 sites en France. On commence donc par la révélation, c'était mardi dernier, vous l'avez vécu en direct sur BFM Business, de la promotion 2022 à la fois du Next 40 et de French Tech 120, ces deux indices qui regroupent les entreprises les plus prometteuses de la tech française, je vous le disais en titre. Comme chaque année, il y a des entrants et des sortants, grosso modo un tiers de renouvellement. Alors dans un instant, eh bien, on va faire un focus sur quelques nouveaux entrants, mais tout d'abord, à quoi ça sert d'être au Next 40 ou au French Tech 120? On écoute les réponses de Frédéric Simotel, c'était sur le plateau du Grand Journal de l'Écho.
C'est vraiment un indicateur de visibilité pour toutes ces startups. Il s'agit des entreprises qui vont dégager de la valeur, qui vont créer de l'emploi, vous l'avez dit, et qui vont sortir de la confidentialité. Le principe d'être dans ce Next 40, dans ce Next 120, première chose, un guichet unique pour faire les formalités douanières, pour l'URSSAF, pour tout ça. Et puis ensuite, de la visibilité. Visibilité, et ça, ils l'ont tous dit, ceux qui sont passés tout au long de la journée et que vous allez recevoir encore, c'est de la visibilité pour recruter des talents, et notamment des CV confirmés. Et ça, c'est important d'être dans ces indices. Ensuite, de la visibilité pour les financeurs. Là, on n'arrête pas de parler de ces licornes, des mégafonds qui arrivent. Et de la visibilité pour les clients aussi. On a Alan, par exemple, en 2019, 60 000 clients. Ils sont passés au Next 40. Ils ont doublé leur nombre de clients. Alors, ça vient de leur produit, mais ça vient aussi de cette visibilité. Donc, tout ça est un élément important. Le point noir, c'est quand même le nombre de femmes dirigeantes. On en a zéro dans le Next 40. Sur 40 entreprises, aucune femme dirigeante. Là, oui, c'est des boîtes d'ingénieurs. Donc, on a moins de femmes dans le monde des ingénieurs. Et puis, par contre, dans le Next 120, on en retrouve une petite vingtaine.
14.
Et parmi les points évoqués par Frédéric Simotel à l'instant, il y a donc le programme d'accompagnement des entreprises du Next 40 et de French Tech 120, accompagnement à la fois par la French Tech et par le gouvernement. On va écouter sur le sujet Clara Chappaz, directrice de la French Tech. Et juste après, vient le témoignage de Loïc Soubéran, c'est le fondateur de Swile, une des nouvelles licornes françaises de 2021. Swile qui, vous le savez, dématérialise les titres restaurants et autres services proposés aux salariés. Et dans cette promotion 2022, eh bien Swile a franchi un cap en passant du French Tech 120 au Next 40. Mais tout d'abord, donc, on écoute Clara Chappaz, interrogée cette semaine par Edwige Chevrillon.
On avait beaucoup de candidats cette année, en effet. Mais en fait, le French Tech 120 et le Next 40 sont des classements purement économiques, donc qui sont basés sur des critères d'hypercroissance et de levée de fonds. Donc, on ne fait pas de choix. On fait l'instruction avec BPI France. On reçoit les informations des entreprises sur leur levée de fonds, sur leur croissance, leur chiffre d'affaires. Et ça nous permet de faire un classement qui détermine, lui, les lauréats du Next 40 French Tech 120, qui, au-delà d'un classement, est en fait un programme. Et souvent, on l'oublie. Le programme Next 40 French Tech 120, qui a été lancé en 2019, c'est donc aujourd'hui la troisième édition, rassemble ces entreprises et leur donne accès à un accompagnement avec des personnes membres de la mission French Tech, donc de mon équipe, qui les accompagne au quotidien et qui les aide à surmonter tous les obstacles.
Qu'est-ce que ça fait de monter donc d'une marche, Loïc? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau titre honorifique? Est-ce que vous y attendez quelque chose d'ailleurs ou pas? Ça peut être le cas.
Non, mais alors, effectivement, vu qu'on faisait déjà partie du French 620, on a eu l'occasion déjà de et je peux vous le confirmer, que les pouvoirs publics et tout l'écosystème French Tech est extrêmement présent et réactif pour accompagner les sociétés qui sont classées, à la fois dans le French Tech 120 et le Next 40. Après, évidemment, faire partie de ce club-là, si je puis le dire ainsi, c'est évidemment pas une fin en soi, mais évidemment, tout l'enjeu, c'est de progressivement remplacer le CAC 40 avec des sociétés du Next 40. Donc, on est encore un peu loin. Je pense que dans quelques années, on va déjà avoir les premières sociétés intégrer le CAC 40. Mais pour ce faire, et ça, c'est peut-être la dernière attente qu'on a sur cet écosystème qui est de plus en plus robuste, hein, pour accompagner des jeunes pousses vraiment de l'amorçage jusqu'à la série D, E, F, avec des, vous l'avez vu, hein, sur cette fin d'année et sur le début d'année 2022, des levées de fonds incroyables. Mais il manque la dernière étape. La dernière étape, c'est les introductions en bourse. Donc ça a commencé l'année dernière avec Believe et OVH Cloud. Mais c'est que le début, il faut vraiment accélérer cette étape-là et vraiment accompagner les sociétés à faire en sorte qu'elles remplacent progressivement les sociétés du CAC 40.
Voilà, je précise que deux entreprises sont sorties cette année du Next 40, justement parce qu'elles étaient cotées à Euronext, à la Bourse de Paris. C'est OVH Cloud, le spécialiste du stockage de données, et Believe dans l'univers de la musique. On va à présent faire un zoom sur de nouveaux entrants du Next 40, promotion 2022. Et tout d'abord, Malt, qui est une plateforme qui met en relation les consultants indépendants, les freelances, avec les employeurs qui leur proposent des missions. 320 000 consultants sont déjà inscrits sur Malt. La plateforme est présente en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne et également aux Pays-Bas. Alexandre Fréty, le directeur général de Malte, était récemment l'invité de Good Morning Business.
Notre métier, en fait, c'est de mettre en relation ces consultants indépendants, et il y en a de plus en plus tous les ans qui passent. Le Covid a été un formidable accélérateur pour ça. C'est une population de travailleurs qui a été doublée en 10 ans. Ouais. C'est pas une réalité française, c'est une réalité européenne et même mondiale. Ouais. Et donc notre métier, c'est de trouver des missions à ces consultants indépendants via des petites, des moyennes et des très grandes entreprises.
Vous êtes installé principalement sur le marché français, mais également le marché européen?
Oui, exactement. On est aujourd'hui présent en France, en Allemagne, en Espagne, et on a ouvert cette année la Belgique et les Pays-Bas. Et notre ambition, c'est de devenir ce fort leader européen à horizon 2024 avec 1 milliard d'euros de volume d'affaires.
Quelles sont les missions les plus allouées, les plus demandées sur Malte?
Alors aujourd'hui, on a à peu près 60% de notre activité qui a lieu dans l'environnement du digital au sens large. Donc quand on parle du digital au sens large, on va retrouver trois métiers principaux. On va retrouver la technologie et la data, on va retrouver les métiers de la création et on va retrouver les métiers du marketing et de la communication.
C'est là où il y a le plus de demandes des entreprises.
C'est là où il y a le plus de demandes des entreprises. Mais ce qui est intéressant et ce qui est un peu nouveau depuis l'épisode Covid, c'est qu'on voit se développer énormément les autres fonctions, les fonctions support, RH, finance, les consultants stratégie, enfin... Toutes les fonctions aujourd'hui d'une entreprise traditionnelle sont éligibles au freelancing et j'ai envie de dire 100% des gens dans 100% des entreprises sont des prospects pour une entreprise pour Malte.
Vous allez rentrer donc dans le Next 40, cette liste qui est publiée chaque année par le gouvernement, par la French Tech. Alors les critères sont très objectifs, hein. Il faut être soit licorne, soit avoir une croissance de plus de 30% annuel, ce qui est largement votre cas. Et puis il faut avoir levé au moins 100 millions d'euros. C'est aussi votre cas. Vous avez donc droit de figurer Next 40. Et c'est vrai que c'est une formidable vitrine, coup de projecteur, qui en général facilite le recrutement de talents.
Tout à fait, c'est tout d'abord une très belle reconnaissance du fait que l'ensemble des Malteurs ont bien fait leur travail.
Bah oui.
J'ai envie de dire, et effectivement, vous le mentionnez, on vient de clôturer le mois de janvier, on est à nos 100% de croissance par rapport à janvier de l'année dernière, donc on est sur notre plan. Et ça va nous aider, effectivement, avant tout sur le recrutement. De plus en plus, aujourd'hui, je recevais des candidats qui me disaient, mais moi, je postule dans des entreprises qui sont Next 40 ou qui sont licornes.
Vous savez quelles sont les prochaines étapes, hein? Comment on sort du Next 40? Alors, on en sort soit par le haut avec une entrée en bourse, et OVH, Believe, soit en devenant en étant prorogé, en devenant licorne. C'est quoi pour vous l'objectif de 2022?
Nous aujourd'hui on a beaucoup d'enjeux en 2022 de développement, y compris de croissance externe, et si on fait notre plan, normalement on devrait toujours être présent l'année prochaine.
Voilà donc pour les enjeux, les grandes ambitions de Malte qui vient de faire son entrée au Next 40, tout comme d'ailleurs l'iPhone qui propose des solutions de digitalisation au monde de la santé, un monde où vous le savez sans doute, bien souvent le fax est encore utilisé. L'iPhone aujourd'hui, ce sont près de 600 cliniques et hôpitaux partenaires, 92 000 médecins en France et environ 160 collaborateurs. L'entreprise veut d'ailleurs en recruter plus de 200 autres dans les prochains mois. Franck Lehoué, le cofondateur de l'iPhone, était l'invité d'Audrey Maubert et Christophe Jacubizine mardi dernier.
On a commencé par digitaliser les documents médicaux qui sont évidemment le point de départ en fait. Le médecin qui écrit son compte-rendu qui va l'envoyer au patient, à notre médecin. Et puis on continue sur notre route en construisant toute l'infrastructure pour digitaliser les hôpitaux et la santé, donc propulser la santé dans le monde du digital.
Combien d'établissements à l'heure actuelle ?
Aujourd'hui, on a près de 600 établissements en France qui travaillent avec nous, donc plus de la moitié des CHU, par exemple, tous les grands groupes de cliniques privées.
Alors, vous rentrez dans le Next 40, déjà félicitations, ça sera annoncé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en attendez de ce coup de projecteur, de cette entrée en majesté dans cette liste des entreprises jugées, les entreprises de demain ?
Ça permet de mettre en avant les collaborateurs, tout le monde qui travaille, parce que on a toujours l'impression un peu de l'extérieur que c'est licorne, etc. C'est facile, mais c'est quand même beaucoup de travail. Et donc c'est bien. Et puis donc ça va nous aider à recruter.
Ah oui, c'est ça.
On a, comme je dirais malheureusement, comme beaucoup, on a.
Mais c'est ce que nous disait Malte il y a quelques minutes. Ce sera la possibilité d'aller récupérer les meilleurs CV, mais vous chassez tous sur les mêmes terres. D'ailleurs, vous avez une bannière sur votre site, vous recherchez plus de 200 talents. Est-ce qu'à terme, ça ne peut pas devenir le frein à cette hypercroissance ?
Si, nécessairement. On a vu qu'il y a une envolée des salaires. Enfin, forcément, ça crée de l'inflation. L'avantage aussi qu'on peut avoir, un peu grâce au Covid, c'est que maintenant, on chasse pas que en région parisienne, on chasse vraiment partout, dans toute la France, on recrute partout. Donc, ça nous aide aussi à attirer des talents.
Et combien de collaborateurs aujourd'hui ?
150 collaborateurs.
Et donc, vous voulez doubler, quoi, ça dit ? Parce que Audrey a déjà repéré les offres d'emploi. 200 collaborateurs recherchés, c'est ça ?
C'est ça, voilà.
Bon. Voilà, l'appel est donc lancé. L'iPhone recherche plus de 200 collaborateurs. Dans l'actualité de la semaine également, la belle opération de l'armateur français CMA-CGM, basé à Marseille depuis le milieu du 19e siècle, même si le nom de l'entreprise a fluctué au fil du temps. Et bien, cette belle opération, c'est le rachat de Colis Privé, société basée à Aix-en-Provence. C'est l'un des grands acteurs européens de ce que l'on appelle la livraison du dernier kilomètre. Alors, pourquoi cette acquisition d'une entreprise d'acheminement des colis par un géant mondial du fret ? Explication signée Nathan Cocon.
Avec cette acquisition, CMA-CGM s'invite dans la bataille du dernier kilomètre, une diversification éloignée des métiers classiques de conteneur, mais qui répond à une demande de ses principaux clients, comme l'explique Rodolphe Saadé, son PDG.
Beaucoup de nos grands clients, que ce soit Carrefour, Decathlon ou Ikea, nous demandent des solutions de bout en bout, maritime d'un côté, logistique de l'autre. Certains d'entre eux vont même jusqu'à nous demander le dernier kilomètre. Et le dernier kilomètre avec Colis Privé, c'était un peu le chaînon manquant au niveau de l'intralogistique.
CMA-CGM étoffe ainsi son offre après avoir racheté Seva Logistique en 2019, géant de la logistique mondiale avec plus de 750 entrepôts. L'armateur maîtrisera donc la distribution de colis du conteneur à la boîte aux lettres, un atout de taille dans un secteur de plus en plus concurrentiel où le dernier kilomètre représente plus de la moitié des coûts de la chaîne logistique. De son côté, Colis Privé, qui n'a finalement pas réussi à entrer en bourse, va bénéficier d'une nouvelle source de colis en amont avec Seva et ainsi grignoter le marché de Colissimo et Chronopost, les services de la Poste.
Et une précision, le rachat doit encore être validé, approuvé par les autorités de la concurrence pour être effectif. Et puis dans le sujet, vous avez entendu un court extrait d'une interview de Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM. Il s'agissait d'un extrait de l'entretien HEC, grand rendez-vous mensuel présenté par Edwige Chevrillon. Il est diffusé ce week-end sur BFM Business, samedi à 20h et dimanche à 14h. Bonjour Arthur Lepage.
Bonjour.
Et bienvenue dans La France à tout pour réussir. On va parler de deux sujets qui ici nous tiennent très à cœur. L'industrie française et le recyclage, plus précisément le recyclage des films plastiques. Alors on va en parler à l'occasion d'une levée de fonds qui vous concerne et on le détaillera dans un instant. Plus de 16 millions d'euros notamment de la part d'un fonds géré par BPI France. Mais tout d'abord, rappelez-nous le cœur d'activité de votre groupe Reborn. Vous êtes à la fois un fabricant de films plastiques mais aussi de plus en plus dans le recyclage de ces mêmes films. C'est quoi les films plastiques dont on parle ?
On parle de tous les films plastiques. Alors, nous, on est plutôt sur les films secondaires et tertiaires. Donc, on n'est pas directement en contact alimentaire. On travaille pour les métiers de la boisson, les métiers de l'hygiène. Tout ce qui est film aussi qui permet de transporter des palettes. Donc, on fabrique à peu près 50 000 tonnes de films. Et en effet, la caractéristique du groupe, c'est qu'on est intégré à la fois sur la partie transformation, donc fabrication des films, mais aussi tout ce qui est collecte et recyclage des films.
Et cette collecte et ce recyclage, c'est via votre filiale XL Recycling, vous le prononcez à l'anglaise.
Oui, bon, on peut faire tout, recycling aussi.
Et c'est donc elle qui reçoit ce soutien de 16 millions d'euros via le fonds SPI qui est géré par BPI France. Alors à quoi vont vous servir ces 16 millions d'euros?
En fait, on a commencé à s'intégrer sur la partie recyclage il y a 5 ans. On commençait à collecter des déchets, on a vu qu'il y avait beaucoup à faire à la fois dans la transformation de la chaîne logistique, donc venir collecter à la source les déchets, et on a commencé à mettre en place des lignes de recyclage. Donc vraiment, on broie, on va trier, on va sécher, etc. Et on a deux lignes de recyclage actuellement, et avec les fonds qu'on vient de lever, avec le fonds SPI de la BPI, on a les moyens aujourd'hui de déployer sur nos 5 sites industriels en France. On a 5 sites dans 5 régions différentes.
On va les voir dans un petit instant. Donc, il y a un site dans l'Eure, il y a un site dans les Vosges, il y a un site dans la Loire, un site dans les Pyrénées-Atlantiques, il m'en manque un.
Et près de Saint-Etienne, à Montbrison.
À Montbrison, voilà. Donc, sur ces 5 sites, vous allez déployer ces lignes.
Des lignes de recyclage, oui.
Quel nombre de lignes et à quel horizon?
Bah là, on a 3 ans, c'est fixé 3 ans. Donc, il y aura une première salve 2023. On aura 3 nouvelles lignes. Et en 2026, on pense remettre encore 2 à 3 nouvelles lignes sur les différents sites, dans les principaux sites du groupe. Donc chaque site aura à la fois la partie transformation et 2 lignes qu'on pourra collecter et recycler sur place. Donc à la fois fournir l'usine à côté et pourquoi pas vendre à l'extérieur du groupe des matières secondaires de qualité.
Est-ce que vous recyclez donc à la fois pour vos propres films, mais aussi pour d'autres clients?
Oui, au départ on a servi de client et entre guillemets de cobaye, puisqu'on a mis au point toute la partie, on va dire, qualité, sourcing, qualité aussi des matières qu'on sort pour nos propres besoins, et pour remplacer la matière vierge, parce qu'aujourd'hui on vise de remplacer à 80% toutes les matières vierges par des matières secondaires.
À quel horizon? C'est à 2025?
À 2026. Aujourd'hui, on est déjà à 30% de matières secondaires qui ont remplacé les matières premières vierges.
Et le but, c'est 80%.
Et le but, c'est 80%. Alors peut-être qu'on ira plus loin. Hein. On fait déjà des films aujourd'hui dans la boisson. Par exemple, des films qui viennent faire des packs d'eau, des packs de bière. On remplace à 100% les matières vierges par des matières basse déchets, donc collectées, transformées chez nous, et après, avec lesquelles on a refait des films.
Et sur ces films, parfois, il y a de l'encre, et ça c'est une de vos technologies aussi qui s'appelle BiClear. Vous êtes capable aussi de faire de ce qu'on appelle du désancrage, bien ça.
On a lancé ça en septembre, donc dans une ligne classique de recyclage, où on va broyer puis on va laver, on met un produit comme un détergent qui vient enlever la surface, parce qu'en fait sur un film imprimé vous avez 1% de surface qui est imprimée, ou un petit micron, et on vient détacher cette pellicule d'encre qui part dans le système, et qu'on vient, après on recycle l'eau, évidemment tout est recyclé en interne, et on peut comme ça recycler des films imprimés et les remettre. Toute l'idée, c'est de remettre dans des applications à valeur ajoutée, de pas recycler vers des sacs poubelles ou vers des applications, on va dire, bas de gamme, mais de vraiment pas perdre de valeur lors du processus de collecte et de recyclage pour le mettre dans des applications à ISO valeur.
Ce procédé BiClear, il est inédit, j'imagine qu'il est évidemment protégé, breveté, etc. Il est inédit, vous avez des concurrents qui font la même chose en France ou dans d'autres pays?
On est les premiers à le faire sur notre métier, sur ces films, on va dire, de grande consommation en Europe. On a 2 autres sociétés. En fait, on a une licence. On travaille avec une start-up espagnole. Donc, on a une licence sur la partie, on va dire, brevet, process. Et je crois qu'il y a 2 autres sociétés qui l'appliquent dans d'autres métiers du recyclage. Même si, à terme, je pense que plein de technologies vont apparaître de désancrage, voire de délamination pour séparer des couches, par exemple, qui sont collées. Donc, on est vraiment au tout début. La révolution du recyclage plastique et en particulier des recyclages des films.
Le développement de ces lignes de production dont vous nous avez parlé, ça aura un impact sur l'emploi aussi, sur vos 5 sites en France. Le nombre d'emplois à l'heure actuelle et quelles sont vos perspectives d'embauche?
Aujourd'hui, on est 450 sur les 5 sites et on vise de créer à peu près une centaine d'emplois avec 5 à 6 lignes. Donc c'est des emplois qui sont intéressants parce que c'est quand même un métier d'avenir. Hein. On est vraiment au tout début de la tendance du recyclage, alors sur le plastique, sur les femmes plastiques en particulier. Donc on est vraiment en train de générer des emplois qui seront très intéressants dans le futur.
Et on en parlait avec les boîtes dont on a parlé, Malte, l'iPhone, etc. Est-ce que c'est compliqué de recruter? Eux-mêmes, ils ont des difficultés dans le numérique. Est-ce que dans l'industriel, avec des métiers aussi précis, vous avez les mêmes difficultés, vous, à recruter, en plus, dans des coins de la France très éclatés?
Ah oui, bah c'est assez compliqué. Après, les régions ne sont pas les mêmes, mais c'est assez compliqué de recruter dans les milieux industriels, à tous les postes. Alors, les postes très techniques, type maintenance, on a beaucoup de mal. L'encadrement industriel, on n'est que sur des postes spécialisés, donc des ouvriers spécialisés, sur des machines assez compliquées. Donc, en effet, le attirer et garder est une des grosses composantes aujourd'hui des enjeux qu'on a à faire face.
Ce soutien de BPI France via son fonds, ça tombe au bon moment. On sent que la tendance est là. On sent qu'il y a une vraie demande de recyclage et de plus en plus, il y a des contraintes réglementaires aussi. Pour vous, dans votre développement, il tombe pile au bon moment?
C'était au moment où on peut accélérer. Donc, ça fait 3 ans qu'on commence à collecter, qu'on a mis au point les technologies, qu'on sait comment maintenant recycler. C'est tout à fait possible de recycler les films plastiques. Il faut bien les collecter, il faut bien les traiter. Donc on est vraiment à la phase où on peut accélérer. Et donc cette levée de fonds vient à point nommé pour vraiment déployer en même temps, ce qui va être quand même une gageure, sur 3 sites différents, 3 lignes en 2023, la même chose en 2026. Donc c'est vraiment bien d'être accompagné par le fonds BPI, SPI, qui est là pour vraiment industrialiser et développer l'innovation en France.
Un mot justement sur l'industrialisation. On a beaucoup parlé dans cette même émission, d'ailleurs il y a quelques semaines, du sommet Choose France, avec tous les investissements qui ont été liés justement au développement des industries de recyclage. On a parlé d'Eastman, on a parlé de Loop avec Suez. Nous, on en a fait un reportage chez Carbios à Clermont-Ferrand sur le site de Michelin. On sent vraiment qu'il y a une vraie filière qui se met en place. Vous en faites partie, vous considérez que vous en faites partie, et ces signaux, ils sont très positifs.
On est clairement au début de l'économie circulaire et de l'économie circulaire des plastiques. Et je pense que la photographie qu'on a aujourd'hui, elle va vraiment évoluer. On va collecter de plus en plus pour valoriser les déchets et les recycler. Donc on est au début de la création de filières de recyclage, de filières de valorisation, d'usines. Il nous manque des usines parce que...
Vous allez en construire d'autres ?
Non, mais même en Europe, il nous faut... Pourquoi pas d'ailleurs aller en dehors de la France ? On a déjà 5 usines. Peut-être que la prochaine étape dans 2-3 ans, c'est de faire des usines en dehors de la France pour accompagner nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients de nos films qui sont à l'étranger. Donc en effet, on est vraiment...
Vous êtes planté dans 60 pays, je crois, c'est ça ?
60 pays, alors beaucoup en Europe centrale, Europe de l'Est. On développe beaucoup aussi au Maghreb pour tout ce qui est les films dans l'hygiène. Donc on est tourné vers l'international. Aujourd'hui, alors on a 5 usines qui nous permettent de bien collecter dans un rayon de 500 à 600 km autour de la France. Il faut qu'on aille plus loin, sans doute, d'ici 2 à 3 ans.
Oui. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, donc Arthur Lepage, d'avoir été l'invité.
Merci.
De La France a tout pour réussir, président du groupe Reborn, donc qui lève 16 millions d'euros pour développer le recyclage des films plastiques. Et puis, à 3 semaines, du Salon de l'agriculture à Paris, on va terminer en parlant de Mimosa. Mimosa avec 2 i, c'est une start-up créée en 2015, que l'on suit depuis très longtemps sur BFM Business. Alors, Mimosa, en fait, lève des fonds pour accompagner des projets qui visent à accélérer la transition agricole et alimentaire. L'entreprise elle-même vient de lever 30 millions d'euros pour financer ces projets. Florian Breton, le fondateur de Mimosa, était l'invité de la matinale il y a quelques semaines.
Historiquement, la mission de l'entreprise est d'accompagner les transitions sociales, économiques et écologiques de l'agriculture pour répondre aux grands enjeux du 21e siècle. On peut parler de souveraineté alimentaire, de lutte contre le changement climatique, de préservation des ressources naturelles, de la biodiversité. Et donc, dans cette lignée, on accompagnait des projets de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros, allant d'achat de matériel, d'achat de foncier, d'achat notamment aussi de cheptel dans la filière élevage. Oui. Et puis, on a fait appel au crédit à l'épargne populaire pour monter sur des collectes plutôt de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros à travers le lancement de ce fonds, donc unique en Europe. Je rappelle que c'est le premier fonds en Europe dédié au financement des exploitations agricoles. Jamais dans l'histoire de l'agriculture européenne il y a eu un fonds de dette aux exploitations agricoles. Et donc ça nous permet de rentrer plutôt dans une catégorie d'exploitations agricoles de moyenne voire de grande taille, dite de filière, pour changer d'échelle à la fois d'un point de vue impact et transition agricole, pour impacter aussi la santé publique et lutter contre le changement climatique.
Mais c'est une demande de la part des exploitations aussi.
C'est une grande demande de la part des exploitations, puisqu'aujourd'hui l'agriculture est extrêmement connectée. 86% des agriculteurs sont connectés à Internet. Ah oui. Et il y a une vraie volonté du monde agricole de s'affranchir des modèles existants historiques. Et c'est vrai que l'accès au financement par le fonds de dette et par la foule à travers Mimosa garantit des financements, encore une fois, allant de 5 à 10 jours maximum, quel que soit le montant. Pour exemple, on a financé une exploitation viticole il y a encore 48 heures qui a levé 500 000 euros en seulement 5 jours.
Est-ce que vous avez un ou deux exemples d'exploitations agricoles dans lesquelles vous avez investi, dont vous êtes particulièrement fier et donc qui ont connu un développement formidable grâce notamment à Mimosa?
Bah, on est fier des 5000 histoires qu'on a accompagnées depuis 2015, ouais. Mais forcément les dernières sont extraordinaires. Un projet de cogénération en Bretagne sur l'exploitation notamment de Bernard Caroff, que je cite et que je salue, qui se développe avec un modèle dans les énergies renouvelables qui est assez extraordinaire, qui fait de la production de tomates et qui travaille avec la coopérative Savel notamment. Un projet en apiculture bio en région PACA, un gros enjeu de souveraineté alimentaire parce qu'on importe la plupart du miel, et en plus du miel bio tracé français, c'est extrêmement rare, donc il y a un vrai enjeu. Projet d'un domaine viticole en Occitanie, le domaine Blanville, que nous avons accompagné, qui est en train de changer vers une agriculture biologique à 100%. Donc ce sont tant de belles histoires aujourd'hui que nous accompagnons au nombre de 120 tous les mois sur mimosa.com.
Voilà donc les belles histoires de Mimosa.com qui vient de lever 30 millions d'euros pour continuer à financer de belles histoires de l'économie française. Et le week-end prochain, eh bien nous aussi, on vous racontera d'autres belles histoires d'économie positive, des initiatives qui fonctionnent dans notre pays. D'ici là, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.